Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous.
Thunes, le premier podcast intime sur l'argent.
Donc le rapport à l'argent, c'est quand même quelque chose qui est très virtuel chez nous quand même, hein. Enfin, dans la vie religieuse. Hein. Parce que la plupart d'entre nous, il y en a peu qui ont travaillé avant, et donc ils ne font pas le sens du travail et de la valeur de l'argent. Et on va, c'est pas dans la vie religieuse qu'on l'acquiert, en fait. Parce qu'on est tout le temps un peu détaché de la réalité, de ce que c'est, de ce que ça vaut, quoi. Comme on nous donne des choses, en plus, on se rend pas compte que des gens ont travaillé pour payer ce qu'on nous donne. Donc on est complètement détaché de la valeur des choses.
En vérité, je vous le dis, je vous le confesse, je ne crois pas en Dieu, mais je fais partie de ces gens qui pour autant ne jugent pas ceux qui ont des convictions différentes des miennes. Pire, ça m'interroge et ça m'intéresse. Sœur Jeanne-Marie est entrée il y a 25 ans dans la congrégation des Sœurs apostoliques de Saint-Jean et elle a donc fait vœu de pauvreté en prenant l'habit dans cet ordre mendiant. Pour thune, elle décrit son quotidien et ses doutes aussi. Car attendez la fin de l'épisode, vous allez voir, en plus d'être rigolote, sincère et sympathique, Sœur Jeanne-Marie va sans doute bien vous surprendre. Je vous en dis pas plus, bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Sœur Jeanne-Marie. Sœur Jeanne-Marie, tu as 50 ans. Et tu appartiens à la congrégation des sœurs apostoliques de Saint-Jean. Comment est-ce qu'on se retrouve à la congrégation des sœurs apostoliques de Saint-Jean? T'as grandi où? T'es née où?
Alors, je suis née dans l'Aisne, à Soissons. J'étais dans une famille chrétienne pratiquante, mais sans plus. On n'a jamais pratiqué, en dehors de l'église et de l'aumônerie, du caté, on faisait rien de spécial à la maison. Mais quand même, c'était important. Enfin, ça faisait partie de notre éducation, vraiment, profondément. Et puis, on fréquentait pas du tout la vie religieuse. On n'avait pas du tout de contact avec des religieux, des bonnes sœurs, des moines ou des couvents. Et j'ai découvert cet aspect-là de la vie chrétienne par le scoutisme. J'ai commencé à 16 ans, en province. On était à Tours, et ça a été génial, avec des aventures vachement sympas. Et puis surtout, la découverte d'une fraternité entre jeunes, avec des jeunes motivés, sympas, chrétiens. Et puis après, j'ai commencé mes études à Paris. J'ai fait des études d'architecture. Donc des études géniales, j'ai pris mon temps pour le faire parce que je trouvais ça génial. Donc j'ai 8 ans d'études quand même, qui normalement se font en 5 ans. Et c'était un milieu très mélangé avec des gens de tout style. Donc je me suis beaucoup amusée à être là qu'à tout service de l'école et à arriver à la cafette avec des bouquins du pape, à raconter ce que je faisais les week-ends en partant en pèlerinage et tout ça. Et en fait c'était très sympa.
Alors attends juste un point, tes parents ils faisaient quoi?
On est d'une famille aisée quand même. Enfin, on n'a pas forcément toujours été aisés. Mes papas étaient ingénieurs et directeurs d'entreprise. Et maman était professeure de sciences nat au collège.
Bourgeoisie de province, quoi.
Voilà.
Et donc, ils ont payé tes études?
Oui, mais enfin, à l'époque, ça coûtait rien. Les études vivent la France. C'était 2000 francs d'inscription. Et puis, je travaillais un petit peu. J'ai travaillé en parallèle les dernières années de mes études, surtout en agence des monuments historiques. Bon, j'ai eu une enfance normale, enfin une jeunesse, j'ai eu des petits copains, je sortais, j'aimais danser. Mais il y avait cet appel profond d'une vie toute donnée, de pouvoir aimer avec un cœur donné à tous, quoi. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, un mec ne me suffira pas. Il n'y a que Jésus qui peut vraiment remplir mon cœur, quoi. Ça a été très long comme discernement.
Bah, c'est pas facile comme décision. Enfin, c'est pas une décision évidente
aucun... Non, puis il y avait comme cette attraction. Enfin, puis j'ai découvert cette communauté de sœurs qui était... Jolie.
Pour de vrai. Moi, je vois toujours des vieilles dames quand je vois des sœurs.
Ah non, mais justement, c'est ça le truc de notre communauté, c'est que on est né en 84.
La communauté, la congrégation est née.
Elle est née en 84, 1984.
Ouais. Et donc, tu connaissais certaines nanas qui étaient dans cette communauté.
Ouais.
Tu les voyais donc avoir commencé une vie religieuse. Tu les fréquentais, tu voyais bien comment ça se passait de l'intérieur éventuellement.
Ouais.
Et à un moment, tu t'es dit, je passe le pas, quoi.
À un moment, je me suis dit, en fait, c'est ça mon bonheur, quoi. C'est ça ma joie, j'ai envie d'être heureuse comme elles ont l'air d'être heureuses. Et
bosser dans le cabinet d'archi, non en fait.
Je vais offrir ça à Jésus et puis il débrouillera avec, quoi. Enfin, bon, c'est sûr, c'est un sacrifice. Mais il y avait quelque chose d'une vraie joie de cette communion intime avec le Christ, en fait. Et puis dans une vie fraternelle qui avait l'air vraiment sympa. Ça faisait sérieux et en même temps joyeux. Donc il y avait quelque chose de très attirant, quoi.
Alors, c'est pas n'importe quel ordre. Ta congrégation appartient à un ordre mendiant.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire un peu le point sur ce que c'est qu'un ordre mendiant?
Alors, c'est une expression un peu compliquée. Ça date depuis le début de l'Église. Donc, au départ, c'était surtout des vierges qui se consacraient entièrement au Christ, qui vivaient tout seules ou avec d'autres femmes comme des veuves. Et puis, petit à petit, il y a des pères du désert. Et ensuite, ils sont mis en communauté. Et donc, au XIIe siècle, le premier, c'est saint François d'Assise, qui est fils de gosse de riche, fils de grand marchand italien, a senti l'appel du Christ et un appel à la pauvreté radicale.
Alors lui, il évitait de s'approcher de la monnaie, de l'argent physiquement.
Oui, et puis il était radical. Il y a des histoires fameuses où il s'est mis à poil au plein milieu d'Assise pour dire « moi, je veux vivre avec rien ». Donc, comme fils du gros marchand de tissus de la ville, c'était un peu choquant. Donc, il a fondé les franciscains, un peu malgré lui, mais avec donc cet appel de la pauvreté radicale. Et donc, il vivait... Enfin, de la bienveillance des gens, donc ils mendiaient pour pouvoir vivre. Et c'était aussi une manière de vivre de la providence, de la manière dont Dieu s'occupe de ses enfants. Quand ils ont tout donné à Dieu, Dieu s'occupe d'eux. Donc alors, aujourd'hui, maintenant, l'Église essaye d'organiser un peu mieux la mendicité, entre guillemets, des ordres religieux pour pas qu'on non plus on dépende outrageusement de personnes presque plus pauvres que nous, parce que c'est une pauvreté choisie. Mais souvent, c'est quand même des gens qui ne sont pas nés dans la pauvreté, qui choisissent cette pauvreté-là. On manque de rien dans la vie religieuse. Enfin, je veux dire, l'institution nous protège. Et d'aller demander, parfois ça pose des questions, d'aller demander de l'argent ou de la nourriture aux bonnes volontés, parfois c'est des gens qui ont moins que nous, qui nous donnent. Donc il y a toute cette question-là. Et aujourd'hui, notre communauté, donc on est une famille religieuse avec plusieurs congrégations, donc il y a les frères de Saint-Jean, les sœurs contemplatives et nous, les sœurs apostoliques. On a aussi des laïcs rattachés à la communauté. Mais on traverse une crise très grave suite à la découverte des abus sexuels lourds que notre fondateur a commis et de nombreux autres frères. Donc on est typiquement dans le...
Là, en ce moment, là ?
Oui, ça fait 10 ans qu'on commence à le découvrir, mais là, c'est la Bérésina. Dans l'Église, tout le monde connaît la communauté Saint-Jean comme étant une communauté très, très abîmée par la question des abus sexuels dans l'Église.
Et ça, tu ne le savais pas, évidemment, quand tu rentres...
Ça fait bizarre aujourd'hui pour moi de raconter mon histoire, comment je suis devenue religieuse, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été quand même profondément trahie, quoi, dans ma confiance. Et qu'en fait, on était jeunes et jolies, mais derrière, il se passait plein de choses vraiment pas... Pas catholique.
Quand tu rentres dans les ordres, comment ça se passe concrètement?
On ne fait pas le grand saut tout de suite au niveau financier parce qu'il y a quand même l'Église est sage. Et donc avant de faire profession perpétuelle, donc de décider de s'engager à vie, ça prend environ 6, 7, 8 ans, ça dépend. Et donc tant qu'on n'est pas officiellement membre jusqu'à la mort, de la communauté, on n'a pas le devoir de donner tous nos sous, quoi.
Il y a des entretiens préalables
Oui, on nous dit quand même comment ça marche. Donc, moi, je sais que j'ai fermé mes comptes en banque. J'avais, je pense, un plan épargne-logement quand même avec un petit peu de sous dessus que j'ai gardé. Mais au moment de ma profession perpétuelle, je l'ai vidé. Je ne le referai plus aujourd'hui, mais j'ai donné ce qu'il y avait dessus à ma communauté. alors que j'aurais pu le donner à mes sœurs de sang.
Ah, à ta famille,
à ma famille. Voilà.
Ouais, ouais. Il y avait combien de ceux?
Bon, il y avait. C'était en francs. Non, en euros, ça faisait 35 000 euros quand même.
Ah, quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, t'es arrivée avec une sorte de dot vis-à-vis de ta communauté. Bon.
Ouais. Bon, voilà. Mais ça faisait partie du jeu. Enfin, et c'était mon désir, c'était ma manière d'aider la communauté aussi, qui a peu de fonds. Parce qu'on est propriétaire de pas grand-chose et on n'a pas de... Contrairement à d'autres ordres plus anciens, justement, on n'a pas de patrimoine, on a rien.
Alors, cette communauté, physiquement, elle est où ?
Alors, la maison mère est en Bourgogne, au sud de Paray-le-Monial. Et on a une dizaine de maisons en France et une dizaine d'autres à l'étranger. Donc, on est assez international. La moitié des sœurs ne sont pas françaises. On est environ 185 sœurs. Actuellement.
Elle a été donc fondée en 1984, tu disais. D'où vient tout ce patrimoine ? C'est des bâtiments mis à disposition par l'église ?
Oui, ça dépend en fait. Par exemple, là, moi j'étais au prieuré de Versailles et on est au service d'une maison de retraite, d'un EHPAD. Donc on est logé dans la maison de retraite, mais on a un loyer. Donc on paye un loyer à la maison de retraite pour le logement.
Donc ta communauté paye un loyer. Pour voilà. Le logement. Donc vous êtes combien de sœurs par exemple ? Prenons cet exemple concret.
On est 12 à Versailles.
Vous êtes 12 à Versailles ?
Ouais.
Il y a un loyer que vous devez payer, vous ?
Oui.
Donc, vous devez gagner de l'argent ?
Oui.
Pour payer ce loyer ?
Oui. Eh ben, on a quand même des indemnités de nos missions. C'est-à-dire que ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est la maison de retraite qui nous donne une indemnité pour le travail qu'on fait dans la maison de retraite et on lui paye quand même un loyer.
C'est comme un sponsor ou un partenariat,
c'est un
quoi.
Un contrat, en fait, ouais. En disant, bah voilà, pour les financements, le diocèse prend en charge deux, par exemple, sécurité sociale de sœurs. Donnera des indemnités pour telle mission et puis nous, voilà, en échange de la mission et de la présence religieuse et de l'animation pastorale qu'on fait. Donc ça varie beaucoup selon les lieux.
Tu rentres dans ta congrégation, tu rentres dans la vie religieuse, tu donnes tous tes sous.
Pas de compte personnel, plus de carte bancaire et donc pendant les premières années, j'ai même pas besoin de sous. Parce qu'en fait, je suis au noviciat, j'ai à manger et tout. Enfin, voilà,
au noviciat, ça veut dire à l'école, un peu de la formation
de religieuse.
Oui, c'est ça,
les deux premières années de formation des jeunes sœurs.
Donc, tu es hébergée ?
Je suis hébergée, enfin voilà, je suis complètement prise en charge. Elle paye pour moi la sécurité sociale.
Tu as des vêtements religieux ?
Oui, alors au tout début, on a une bonne vieille jupe et un petit pull. Et puis après, on prend l'habit, au bout d'un an et quelques. Et puis au bout de trois ans après être rentrée, en gros, en général, on fait nos premiers vœux, les vœux temporaires, et là, on prend l'habit complet des sœurs. Voilà.
Pendant trois ans, t'es stagiaire, en quelque sorte.
On vit dans l'obéissance, donc voilà, on apprend la vie des religieuses. Les sœurs voient si on est aussi adaptable, en tout cas, si elles sentent qu'on a notre place dans la
communauté. Tu peux te faire refuser.
Oui. C'est comme dans un mariage.
Ouais, mais ça doit être terrible.
Oui, c'est terrible. J'ai des sœurs pour qui c'est arrivé, où ça se passe pas. C'est pas toujours facile. Dans tous les cas, c'est délicat.
Bah, t'as fermé tes comptes, t'as tout abandonné, t'as éventuellement donné tous tes sous à la congrégation.
Normalement, on évite, enfin, on demande aux sœurs d'être prudentes maintenant. Parce qu'il y a eu justement des générosités un peu emballées, quoi, où du coup, quand la sœur s'en va, bah, elle se retrouve sans rien.
Elle a tout abandonné, et voilà. Ouais. Les gens dont t'es proche dans cette congrégation, ceux que t'as rencontrés, en France en tout cas, c'est des gens qui sont issus d'un milieu plutôt homogène. C'est des gens qui ont des parcours similaires aux tiens, ou il y a vraiment de tout ?
Globalement, c'est quand même des filles de bonne famille. Qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, mais qui sont quand même d'une certaine éducation et d'un certain milieu social. On ne rentre pas sans le bac déjà. Parce qu'on ne veut pas, justement, comme une sécurité. On ne veut pas non plus que la vie religieuse devienne un refuge. Voilà, les filles paumées rentrent dans la vie religieuse en se disant c'est la sécurité, quoi. Enfin, je suis nourrie, logée, blanchie, c'est cool. Bon, ça arrive peu, hein, parce qu'il faut quand même le vouloir de vivre cette vie. Donc, on leur demande par sécurité et justement par éducation humaine, en fait, qu'elles aient au moins une licence, enfin qu'elles aient quand même fait un peu d'études pour s'être ouvert les yeux sur le monde.
Et ouais. Qu'elles aient travaillé ?
Pas forcément, non. 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 Donc leur rapport à l'argent, ça, c'est quand même quelque chose qui est très virtuel chez nous, quand même, hein. Enfin, dans la vie religieuse. Hein. Parce que la plupart d'entre nous, il y en a peu qui ont travaillé avant, et donc ils ne font pas le sens du travail et de la valeur de l'argent. Et on va, c'est pas dans la vie religieuse qu'on l'acquiert, en fait. Parce qu'on est tout le temps un peu détaché de la réalité, de ce que ça vaut, quoi. Comme on nous donne des choses en plus, on ne se rend pas compte bah, que des gens ont travaillé pour payer ce qu'on nous donne. Donc on est complètement détaché de la valeur des choses. Donc quelque part, c'est beau, mais en même temps, concrètement parlant, au niveau du bon sens et du sens commun, ça peut être handicapant. Enfin, si on n'a pas eu la chance d'être éduqué aussi, et puis d'avoir un peu eu d'expérience avant de rentrer, c'est pas forcément dans la vie religieuse qu'on se rend compte combien ça coûte, quoi, et combien c'est cher. Les choses sont chères, et combien les gens dans le monde peinent pour boucler les fins de mois, alors que nous, on est logés, nourris, blanchis. Alors on a fait vœu de pauvreté, mais en fait, on a un rapport à l'argent qui est désincarné, quoi.
Alors, reprenons les choses concrètement. Donc, t'habites où? Tu vis comment? Tu te nourris comment? Comment est-ce que t'achètes tes sous-vêtements? Est-ce que tu bosses?
On a un habit qu'on fait sur mesure. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons nos habits. Mais on a quand même des sous-vêtements sous l'habit, puisque l'habit, on le garde 3 semaines avant de le laver, parce que bah, sinon, on fait des économies de lavage. Donc, on en a deux. On en a deux l'été aussi, pour avoir moins chaud. Et donc, on est habillé en dessous avec des choses de bonne sœur, quoi. Donc, un jupon au coton. Et puis des t-shirts, et puis les sous-vêtements féminins habituels. Donc.
Non, je disais les sous-vêtements parce qu'il faut bien que
mais oui.
Les acheter.
Et alors, donc, de temps en temps, il y a des mamans qui offrent des petites culottes et des soutiens-gorge. Donc, il y a un commun, il y a un placard au noviciat où, quand on a besoin de quelque chose, on demande la permission à sa maîtresse des novices, voilà, supérieure, en disant, voilà, est-ce que j'ai besoin de petites culottes, est-ce que je peux la regarder dans le placard s'il y a quelque chose qui me convient.
T'es logé où?
C'est un grand bâtiment, un ancien petit séminaire très vieux et qu'on a quasiment, il était inhabité pendant 30 ans. On fait des travaux petit bout par petit bout pour restaurer cette énorme baraque. Et donc, on dort dans des chambres individuelles avec des lits de récup. Donc, il y a eu une année où il y a eu un don d'un généreux bienfaiteur qui nous a dit « Allez, vos matelas sont tous pourris, je vous offre des matelas neufs pour toutes les sœurs. » Parce qu'en fait, c'était des vieux machins horribles qui cassaient le dos de tout le monde. Ça reste sobre et simple, mais on était quand même en chambre individuelle avec... voilà, une salle de bain communautaire, des douches.
Après, t'as des affaires personnelles?
Oui, on a des affaires personnelles. On apprend à vivre dans la sobriété, donc à avoir pas trop d'affaires. Et donc, ça fait partie des usages du noviciat que de voir avec la maîtresse novice une fois ou deux dans les 2 années de formation. Regarder nos placards si tout va bien, quoi. Enfin, si on n'a pas trop de trucs, si...
Faut pas avoir trop de trucs.
Bah, en fait, c'est pas la peine d'avoir des réserves si ça sert pas. Ça dépend des sœurs en même temps. Voilà, bah, comme toute femme, quoi. Il y en a, les vêtements, c'est leur truc, donc elles aiment bien avoir des trucs un peu différents.
De temps en temps, elles mettent pas la chasuble et elles mettent un jean qui leur plaît.
Alors, l'habit, c'est toujours, mais c'est ce qu'il y a dessous. Alors, parfois, de temps en temps, il y avait les petites marinières roses à rayures qui dépassent des manches, donc ça, c'est rigolo.
Est-ce qu'il y a une carte bleue de la congrégation?
Alors ça, c'était le truc un peu casse-pied. Alors, à Versailles, par exemple, on était donc une douzaine de sœurs. Il y avait 2 cartes bleues pour 12. Ça, c'est très, très concret. Quand vous achetez un billet de train sur Internet, eh ben, les 2 cartes bleues, elles sont reliées avec un téléphone d'une des sœurs, avec le code de sécurité. Et donc, il faut que vous preniez rendez-vous par SMS avec la sœur en question qui est reliée à la carte bleue pour vérifier qu'elle est disponible au moment où vous êtes votre achat pour pouvoir débloquer le... Donc, c'était un petit peu compliqué, matériellement parlant.
Il y a la sœur trésorière, en quelque sorte.
Oui, alors là, en plus, c'est la prieure, c'est la supérieure, en général, qui a le code de sécurité. Donc, ça lui demande une grande disponibilité de tous les instants, entre guillemets, pour répondre aux achats en ligne. Donc, c'est un peu complexe, quand même.
Alors, il faut quand même manger?
Alors, par exemple, à Versailles, on n'a quasiment aucune course, parce qu'on, de fait, on nous donne énormément. Il y a un maraîcher qui nous donne ses fruits et légumes abîmés qui ne vend plus.
Il y a beaucoup de cadeaux à Versailles.
Et voilà, en fait, c'est super.
Donc, il y a beaucoup de dons.
Il y a beaucoup de dons. Puis, il y a des clubs de mamans qui veulent vraiment nous aider. Donc, si on a vraiment besoin d'acheter des choses en dehors de ce qui nous est donné, la sœur sait que bah, voilà, pour des timbres ou des produits d'entretien, elle demande à une maman et la maman nous fait les courses et elle nous les apporte, quoi. Ah non, non, mais c'est impressionnant, la générosité des gens.
En plus, à Versailles, il y a beaucoup de cadeaux et puis ils ont pas mal d'argent.
Alors, pas forcément. En fait, c'est un peu ça. En découvrant le réel des familles, en fait, souvent, ils rament quand même.
Ah ouais?
C'est pas forcément les plus riches qui nous donnent.
Ah ouais?
C'est très intéressant. C'est les gens les plus généreux, c'est ceux qui ont aussi des difficultés matérielles. Parce qu'ils partagent. Ils savent partager, quoi. C'est très sidérant. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup fréquenté de gens très riches de Versailles. S'il y en a, ils nous fréquentent pas.
Ils donnent plutôt des sous, les gens, ou ils donnent des choses en matériel?
Les deux.
Les deux.
Les deux. Et puis, notre congrégation fait partie de la Fondation des monastères qui permet de faire rentrer des dons avec les défiscalisations. Donc ça nous aide aussi beaucoup. Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que c'est quand même très intéressant de défiscaliser. Mais en même temps, cet argent-là, il peut pas aller n'importe où. C'est-à-dire qu'il est forcément adressé pour des choses très spécifiques et donc ça irait pas, par exemple, pour la vie courante. Enfin, il y a donc pour les sœurs qui font le budget, là, c'est un peu complexe.
Donc on est dans un ordre mendiant et il y a des sœurs qui font le budget.
Ah bah oui, mais on a même un... Qu'on appelle ça?
Ah oui, vous avez un expert comptable.
Ouais,
en fait, validation des comptes.
Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, c'est très très complexe.
Donc il y a éventuellement des sœurs qui étaient rentrées dans une vie de dénuement et qui passent leur temps à manier de la thune.
Oui. On a des sœurs de pays vraiment pauvres, quoi, qui sont rentrées chez nous. Donc on a des sœurs des Philippines, des sœurs africaines. Et ça demande aussi une attention de formation par rapport à l'argent. Mais il y a des sœurs qui ont toujours ramé toute leur vie pour gagner 3 euros, pour pouvoir faire vivre leurs petits frères et sœurs, quoi, et qui se retrouvent dans la vie religieuse. Des rapports culturels à l'argent qui demandent une grande intelligence fraternelle aussi. Rien que pour nos sœurs qui ne sont pas françaises, d'arriver en France et de comprendre la sécurité sociale, les déclarations d'impôts, parce qu'on est tenu de déclarer qu'on n'a pas de revenus, donc de faire quand même une déclaration d'impôts. Donc on a des circuits de sœurs relais dans les maisons pour rappeler aux sœurs,
expliquer tout ça.
Enfin, maintenant on se rend compte qu'en fait il faut au maximum que les sœurs se prennent en charge elles-mêmes pour faire toutes ces démarches, parce que pendant très longtemps c'était la sœur relais qui faisait plus ou moins tout pour les sœurs, et en fait ça déresponsabilise, mais surtout ça infantilise en fait les sœurs.
Déjà bon, il y a une question qui me taraude absolument. Tu rentres dans les ordres avec un bel idéal de générosité, mais a priori t'as rien dans les mains et t'as plus rien quand tu rentres. Quand tu croises quelqu'un de pauvre dans la rue ou dans la vie, tu peux rien lui donner?
Non, je lui donne mon sourire. Ah. Dans le budget, quand on fait le budget annuel d'une maison, il y a toujours un pourcentage qui est prévu pour les aumônes. À Versailles, ça ne faisait pas beaucoup, mais on donnait, je pense, 300 euros par an à des associations qu'on choisissait ensemble. Donc on décidait, bah voilà, on va donner 150 euros à une association pour les enfants, je ne sais pas trop où. Voilà, donc ça ne m'empêche pas d'avoir, surtout quand on porte un habit religieux dans les rues de Paris, par exemple. En fait, on est dans un rapport très personnel avec les pauvres. Enfin, les pauvres nous adressent la parole directement.
Ils vous voient.
Ils nous voient. Beaucoup plus que les autres. Enfin, moi, c'était ma manière de leur donner quelque chose, c'était d'être présente à eux, quoi. Voilà, de pouvoir éventuellement avoir une petite discussion, d'échanger avec eux. Voilà, ils comprennent en fait souvent que les religieuses, on n'a pas d'argent à leur donner, mais ils attendent cette réponse humaine.
Tu te fais pas trop agresser, prendre la tête?
À Paris, de temps en temps, si. Hein. C'est pas toujours simple. Je me suis fait plusieurs fois insulter dans le métro, c'est pas très agréable. Enfin, les gens un petit peu éméchés ou qui ont des griefs et des colères contre l'église.
Le pauvre est pas toujours sympa avec toi?
Alors, les mendiants, si, en général, mais c'est plutôt les gens un peu déséquilibrés ou éméchés qui, quand ils voient une bonne sœur en habit, parfois on sent qu'il y a des colères rentrées contre l'église et ça vous sort dessus, mais c'est pas personnel, quoi.
Alors, est-ce que tu bosses?
Alors, oui, mais on bosse pas comme salarié en général. Il y a peu d'entre nous, alors on est en train d'y réfléchir parce que. Bah avec la situation aussi économique générale, les gens, c'est plus difficile pour tout le monde, donc faut aussi que nous on apprenne à, parce qu'on était dans l'idéal de le Seigneur pourvoira, quoi, mais on se rend compte qu'en fait c'est pas si simple que ça ni juste de vivre au crochet entre guillemets des gens, et que c'est normal d'avoir un salaire pour enfin au moins une indemnité pour le travail qu'on donne. Donc de plus en plus on commence à faire comprendre au diocèse, aux paroisses, bah, qu'on a peut-être besoin d'un peu plus d'argent.
L'église vous donne des subsides?
Oui. Selon nos missions.
Pas selon le nombre de gens qu'il y a dans la congrégation?
Non, c'est pas en fonction des personnes, c'est en fonction de la communauté. Par exemple, pendant plusieurs années, j'étais à Pierrefonds dans l'Oise. Les deux missions principales de notre présence à Pierrefonds, c'était au service de la paroisse et au service de l'école qui est juste à côté, un collège-lycée agricole avec la pastorale scolaire. Donc à la fois la paroisse, donc le diocèse et l'école, donnaient une indemnité pour la mission. Mais après, le nombre de sœurs impliquées dans cette mission, c'était plus ou moins variable. Et puis, sinon, on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas été réévalué depuis plusieurs années. Normalement, tous les 3 ans, je crois, la convention est remise à jour. Et donc, ça fait partie des discussions.
Il y a des négos?
Oui. Ça fait aussi partie des prises de conscience qu'on a eues ces dernières années. Ben, qu'en fait, il ne faut pas être trop gentil. Nous, on a du mal à demander de l'argent. Ce n'est pas dans nos neurones, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on est toutes données, quoi. Voilà, on est généreuse, on est bonne, on est gentille.
Normalement, au sein de l'église, ça devrait être partout comme ça, non?
Voilà, mais en fait, on se rend compte que l'argent, ça reste de l'argent. Et à un moment donné, la justice demande aussi que, bah, de temps en temps, on ait un peu plus que ce qu'on a eu, toujours eu, parce que bah, l'inflation, je ne sais pas quoi, enfin, tout ça. Enfin... Mais ce n'est pas si simple. Enfin, ça dépend de tellement de choses.
C'est quoi le travail, les missions dont tu parles?
C'est déjà une présence de vie religieuse, c'est-à-dire le témoignage d'une communauté qui prie et qui est disponible.
Pour les gens, quoi. Si on vient toquer à votre porte, il y a des bonnes sœurs là.
Voilà, voilà. Donc tout ce qui est catéchisme, accompagnement des enfants de cœur, aumônerie de jeunes.
Et puis alors en EHPAD, j'imagine, il y a travail auprès des petits vieux.
Bah, exactement, on les visite, on leur propose des conférences spirituelles, on les accompagne à la messe.
Mais c'est vraiment toujours orienté vers le culte, hein, vers l'église.
Ah bah oui, oui. On a quand même quelques sœurs qui sont professeurs de théologie, qui ont un vrai job, donc on a quelques sœurs comme ça qui sont salariées, enseignantes à l'université. Mais c'est exceptionnel.
Est-ce que dans l'église, les mecs et les nanas gèrent autant et pareillement l'argent ?
Non. C'est quand même très différent. Alors, en fait, ce qui fait une grande différence entre les mecs et les nanas dans l'église, c'est si les mecs sont prêtres. C'est-à-dire que dès que t'es prêtre, il y a une mission spécifique et il y a aussi un rapport à l'autorité et à l'argent qui, je pense, est différent. Ils ont une plus grande autonomie.
Ils gèrent leur propre budget.
Voilà.
T'as ton église, ils ont ta paroisse.
Ouais, alors bon, souvent, ils sont à plusieurs sur une même paroisse, donc ils gèrent ça quand même communautairement. Mais de fait, de leur mission personnel de prêtre, souvent ils ont leur voiture, leur carte bleue ou une carte bleue liée au compte commun, mais il y a plus de souplesse.
C'est plus individuel.
C'est plus individuel. Et c'est plus autonome, ça peut tourner à l'individualisme aussi, mais en même temps, ils sont leur propre chef.
Et parmi les instances supérieures, le diocèse, etc., etc., à qui vous vous adressez pour avoir des subsides et être payé pour les missions dont tu parlais, c'est plutôt des frères ou des sœurs qui sont en charge ? Pour les gros budgets, justement.
Parce que gérer l'argent, quand même, souvent dans l'église, dans les diocèses, c'est quand même souvent des laïcs. Souvent, c'est des hommes. Moi, ceux que j'ai connus, c'est plutôt des hommes, parce que bah, leur carrière faisait que, en fin de carrière ou retraités, ils se mettent au service de l'église. C'est pas forcément des religieux qui gèrent les sous, parce que bah, ils ont pas forcément les compétences, justement. Vraiment, globalement, je pense que dans tous les diocèses aujourd'hui, c'est pas des prêtres qui gèrent l'argent.
C'est des prestataires, sympathisants, catholiques.
Ah, c'est voilà. Des salariés. C'est des salariés.
A priori, catho, mais.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mais surtout, compétents.
Alors, il y a un truc qui étonne énormément. On parle de la richesse de l'Église, on va au Vatican, on est époustouflé, parfois on les allume pour leurs frasques, et puis à l'autre bout d'une chaîne, on tombe sur toi, tes sœurs, des petites cellules monastiques dénuées de tout ornement, des chasubles usées et des vieux matelas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment ça marche?
C'est un débat récent, là. La semaine dernière, là, il y a eu un complément d'enquête sur la question de l'accompagnement des victimes dans l'Église. Le parti pris, me semble, de l'émission, c'était que l'Église est radin, en gros, et qu'elle a plein de sous, et qu'elle elle veut donner le minimum aux victimes pour pas avoir à trop dépenser, mais qu'en fait, elle a
en
plein d'argent.
En compensation des crimes qui ont été commis.
Voilà. Ouais. Et qu'en fait, il y aurait plein d'argent dans les caisses de l'Église. De France. Bon, ça se discute, moi j'en sais rien. Mon expérience à moi, c'est quand même que tout le monde racle les fonds de tiroir, et que peut-être qu'il y a des grandes réserves, voilà, mais que globalement, on roule pas sur l'or nulle part, et que pour avoir fréquenté de près une paroisse de l'Oise, on sait très bien, on est quand même content que finalement il y ait une séparation de l'Église et de l'État, parce que globalement c'est l'État qui s'occupe de l'entretien des églises, c'est l'État qui entretient les bâtiments, les monuments historiques, donc ça c'est un avantage quand même pour l'Église institution de pas avoir...
Toi, tous les interlocuteurs auxquels t'as pu avoir affaire, et les gens de ta communauté religieuse, ta communauté au sens large, t'as vu personne qui avait un peu des oursins dans les poches ou pas de différentiel entre des façons de vivre ou des niveaux de vie ou des façons de dépenser l'argent?
Si, en fait, quand même. Concrètement, rien qu'entre nos frères et nous, c'est peut-être les différences de base et caricaturales entre hommes et femmes, mais il y a beaucoup plus de gadgets informatiques chez nos frères que chez nous, par exemple.
Ouais.
Les téléphones super top, les ordinateurs de pointe. Alors que
toi, t'avais pas de portable ?
J'ai pas eu de portable pendant très longtemps. Puis avec la mission apostolique, aujourd'hui, si vous voulez être en contact avec des jeunes, vous êtes obligé d'avoir WhatsApp, quoi. Donc il y a 2 ans, je vivais dans un foyer d'étudiantes pour ma première année de thèse. Et donc là, les pères m'ont dit « Non, ma sœur, là, votre 9 touches, là, c'est fini, là. Faut passer à un smartphone. » Donc voilà, donc j'ai pris le moins cher qui m'agace profondément parce qu'il met littéralement 1 minute à s'ouvrir pour
avoir
WhatsApp.
T'as fait exprès pour le moins cher ?
Oui. Bah parce que je voulais pas que ça coûte trop cher. Enfin donc on fait tout. En fait on a le.
Tu penses tout le temps. En fait tu penses tout le temps
tout
à
temps,
ça.
Tout le temps.
Tu penses toujours à prendre le truc le moins cher qui va coûter le moins cher à ta communauté.
Oui. Il y a toujours la réaction intérieure de se dire alors attention le prix quoi.
Ah ouais.
Toujours. Il y a même un frein à la base quoi, à l'achat.
Mais si par exemple quelqu'un de très riche voulait te payer un truc super, je dis n'importe quoi. Un sac Louis Vuitton, un manteau hyper canon et chaud. Est-ce que tu peux accepter ou est-ce que tu vas te dire waouh, qu'est-ce que c'est pas
par
mon...
exemple pour le sac Louis Vuitton comme religieuse, c'est pas un truc qui va avec.
Oui, tu pourrais pas faire grand-chose.
Je vais pas le porter parce que c'est un contre-témoignage en fait.
Ouais.
Parce que en fait, c'est pas seulement une vie de pauvreté, c'est aussi un témoignage de sobriété. Moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est un exemple qu'on peut vivre heureux avec peu. Et qu'on n'a pas besoin d'être dans l'abondance matérielle pour être heureux.
T'as l'impression que ça te rend plus heureux,
oui,
cette sobriété?
Ça me libère d'un poids, d'un surplus matériel. Mais après, je sais qu'on n'est pas obligé de vivre la vie religieuse pour vivre ça. La vie religieuse aime témoigner de ça, Mais on peut vivre cette sobriété en dehors de la vie religieuse, heureusement. Quoi.
Toi, tu trouves que c'est un encombrement, en fait, le luxe, éventuellement ?
Le débordement de luxe. Ce que je trouve intéressant aussi, donc je suis architecte de formation, donc la qualité, le beau m'interpelle.
Tu touches, ouais. Voilà.
Et donc, dans le luxe, là, j'avais notamment une amie, une ancienne religieuse, qui s'est mise à travailler le cuir. Et en fait, elle a réalisé qu'en fait, elle aimerait trop travailler pour Chanel, Hermès et tout ça. Et elle avait un cas de conscience, quoi, en se disant, mais quand même... travailler dans le luxe à ce niveau-là. Et en fait, on a réfléchi ensemble en se disant, mais c'est aussi au service de la beauté, de la qualité, de la féminité, et que ça, on en a besoin dans le monde, quoi. Donc, il y a une manière de travailler pour le luxe aussi, ou dans le luxe. Enfin, moi, travailler pour des choses d'une immense qualité, ça me va très bien. Après, il y a quand même le rapport à qui achète tout ça. Bon, voilà, mais ça, c'est une autre question. Mais personnellement, pour moi, avoir des belles choses, c'est pas forcément contraire, en tout cas, à la sobriété. Par contre, bah, je vais pas avoir comme religieuse un sac Vuitton, parce ouais. que là, ça n'a pas de sens. Mais reconnaître la beauté d'un artisanat de qualité, pour moi, ça, c'est très cohérent avec ma foi.
Est-ce qu'on prend des vacances quand on est religieuse ?
Bonne question. Théoriquement, on dit on part pas en vacances. Enfin, on n'a pas de vacances, mais on a quand même des changements de rythme. Donc on part en repos ou en retraite, et après on part en famille. Et quand on est en famille, au bord de la mer, ça ressemble quand même fortement à des vacances. Donc on part en vacances, oui. On va pas se raconter des histoires. Mais c'est pas des vacances, on va pas aller au Club Med, quoi.
Alors j'imagine qu'il y a des moments de fête, puisqu'il y a des fêtes religieuses. Est-ce qu'il y a des dépenses particulières, des luxes justement, lors de ces fêtes-là ?
Alors parfois, on peut organiser des pèlerinages... un peu genre on va à Rome. Donc ça c'est le luxe là, j'ai plus une année les formatrices ont emmené les jeunes professes en pèlerinage à Rome. Et du coup ça fait un peu fête parce que forcément
bah tu visites Rome
tu
quoi.
Visites Rome voilà.
À Noël vous devez vous taper un bon goleton quand même, non ? Je sais pas.
Oui, quoi. Alors qu'on fait nous-mêmes hein. Donc mais après de fait on a le sens de la fête, c'est très important d'avoir des repas spécifiques, on sort le bon vin, on fait un super
ah oui, carrément.
Gâteau. Ah bah oui quand même oui.
Ah ouais.
Ah oui.
Oui, donc sobriété mais bon, c'est pas non plus à 16 dénuements.
Ah non. Non, la sobriété, j'allais dire heureuse, voilà, ouais. Sobriété régulée, c'est-à-dire qu'il y a des jours avec, des jours sans, mais les jours avec, on est, bah, c'est légitime, quoi.
Est-ce qu'il y a des jours où t'as éprouvé du manque, justement ?
Oui, oui, quand même, oui, oui, mais bon, après, c'est jamais, quand c'est du manque au niveau matériel, c'est gérable. Pour moi, ça n'a pas été le plus difficile, mais j'ai pas non plus vécu dans les lieux les plus difficiles. On a un prieuré au fond de la, enfin, fond de la Guinée-Conakry, et là, les conditions matérielles des sœurs, apparemment, d'après ce que les sœurs qui ont habité là-bas m'ont dit, c'était quand même pure régulière de courant, internet intermittent, l'eau intermittent, tu fais la cuisine sur le feu, parce que t'as plus de gaz, c'est très spartiate. Donc là, il y a des conditions matérielles qui peuvent être vraiment très difficiles. Et donc, je pense qu'il y a des fois où cette pauvreté-là, elle mord, quoi. Elle est plus difficile à porter. Mais ce qui est le plus difficile pour moi, c'était plutôt la pauvreté fraternelle, enfin affective. Quand il y a des tensions dans les relations,
voilà. Et que
quand
tu peux,
vous sentez toi, un oui. peu isolé, ou
oui, et que t'es coincé avec tes sœurs.
Voilà. Et moment... qu'il y a des non-dits, il y a des atmosphères de gêne et pesantes. Voilà.
Ça c'est plus dur que tout, que toute
moi,
privation matérielle.
Oui, 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 oui.
T'avais parlé d'un truc que j'avais trouvé très intéressant. Certaines sœurs qui peut-être dans cette recherche de la sobriété, voire du dénuement ou de la pauvreté, allaient trop loin.
De temps en temps, on sent que les sœurs, soit par négligence personnelle ou désintérêt, bah, par exemple, s'habillent avec des loques en dessous. C'est-à-dire qu'extérieurement, leur habit, il est normal. Parce qu'on finit par se dire, quand il est vraiment trop usé, on se le dit mutuellement. Dire, là, il va falloir que tu fasses quelque chose quand même. Mais en dessous, à part la sœur qui fait les lessives, qui plie le linge, on ne sait pas trop ce que les sœurs portent en dessous. Et donc, je me souviens très bien d'une fois où une sœur, justement des Philippines, donc qui avait le sens de la vraie pauvreté, avait partagé un jour à une réunion communautaire que franchement, elle voyait des t-shirts tellement troués que c'était honteux, en fait. Ça coûte, en plus, un t-shirt blanc, on en a plein dans les placards, quoi, en stock. Je pense qu'il y a des sœurs par pauvreté qui continuent à porter leurs vieux t-shirts usés, puis d'autres parce qu'elles s'en fichent. Mais il y a quelque chose d'un respect de soi.
Plus d'avoir une négligence, quoi.
Mais du coup, ça choquait une sœur vraiment pauvre, enfin, qui venait d'un pays vraiment, qui a connu la pauvreté, et qui était choquée de voir que des sœurs pouvaient porter des trucs vraiment en loque, quoi. En fait, la question du soin, je pense que c'est une question qui, c'est un lieu où on peut peut-être mesurer notre rapport à la pauvreté. C'est-à-dire quand les gens vraiment qui ont un sens de la valeur des choses, ils prennent soin des choses qu'ils ont. Et ils prennent soin d'eux-mêmes.
Tu m'as dit quelque chose de très étonnant. Là, juste avant qu'on se retrouve, tu m'as dit que tu allais faire une pause dans ta vie religieuse. Alors, apparemment, on peut faire des demandes et dire, voilà, je m'arrête un peu.
Oui, le droit canonique nous offre cette possibilité que pour des raisons graves et importantes, on puisse demander une sorte de recul vis-à-vis de notre vie communautaire et fraternelle pour un temps. C'était 3 ans jusqu'à il y a peu, et là le pape François a autorisé que ça puisse durer 5 ans maximum. Donc c'est ce qu'on appelle une exclaustration, donc c'est un mot très barbare, sortie du cloître.
Donc ça fait 25 ans que t'es
dans la communauté,
et là tu vis en communauté, que tu pries, que tu vis par les subsides donnés grâce aux missions que tu effectues pour la communauté, que quand tu vois une carte bleue, c'est celle de la communauté, que tu n'as pas d'argent à toi.
Non.
Hein,
hein. Rien.
Rien. T'as pas de compte en banque, toujours pas?
Alors maintenant, si, mais depuis 3 semaines, quoi.
Depuis 3 semaines, voilà, on y vient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire, Jeanne-Marie? Je t'appelle plus sœur Jeanne-Marie, t'es en pause.
Alors oui, je suis quand même toujours religieuse, hein. Mais c'est sûr, je ne me porte plus l'habit. Et j'ai demandé donc ces 3 ans de recul qui me laissent toujours le statut de religieuse. Donc les sœurs veillent quand même à ce que je manque de rien. Bon, elles n'ont pas non plus des tonnes d'argent, hein. Puis on est quand même quelques-unes dans mon cas comme moi. Et donc je leur ai dit, j'ai besoin de travailler justement, de retrouver une autonomie financière et moi-même, quoi.
Financièrement, t'as pas de chômage, hein, évidemment, puisque t'as rien cotisé. Mm. Tu n'as pas vraiment de CV. Enfin, tu as un CV un peu. Si, t'en as un, mais il est, en termes d'expérience professionnelle, il est très spécifique.
Oui. C'est mon problème actuel, là. Faut que je le réécrive et faut que j'arrive à traduire mes compétences acquises pendant mes 25 ans de vie religieuse en mots professionnels. Et puis, comme je cherche quand même un travail dans le milieu de l'architecture, mais en fait, mon expérience, elle date d'il y a 25 ans. Donc
ils vont bien rigoler à Pôle emploi.
J'ai rendez-vous lundi prochain.
Tu vis chez tes parents, t'es retourné chez tes parents, c'est ça?
Oui, c'est très bizarre.
Ils sont à la retraite, j'imagine.
Ils sont à la retraite, et puis mon papa commence à décliner neurologiquement, donc c'est un petit peu difficile, mais ils sont pas toujours là, donc pour l'instant ça me laisse de l'espace pour respirer.
Mais t'as le gîte et le couvert déjà.
Exactement. J'ai dit aux sœurs, mon plan c'est d'être autonome financièrement en septembre prochain, donc on est en janvier là, et donc d'ici là elles me donnent un petit pécule mensuel.
C'est quoi, c'est quelques centaines d'euros?
Oui, c'est déjà pas mal.
Ta maman t'a acheté des habits?
Oui, et puis j'ai une copine qui a justement à Versailles qui a trouvé aussi, il y a des magasins de seconde main ou d'un peu de troc, donc elle m'a trouvé plein de trucs. Ce pull-là, c'est une friperie à Boulogne-Saint-Michel. Il y avait juste 3 pulls pour 15 euros.
Tu serais prête à accepter n'importe quel boulot?
Alors oui et non, parce qu'en fait, j'ai quand même plusieurs diplômes d'un certain niveau, et donc j'ai pas non plus envie de sous-travailler. Mais pour l'instant, j'atterris, je découvre ma nouvelle vie, donc la banque, ma carte bancaire à mon nom, inscrite à Pôle emploi, inscrite à l'APEC. J'ai toutes ces démarches-là à faire.
T'aurais pu demander le RSA.
En fait, je pense que, comme je suis toujours religieuse, je crois qu'on s'est engagé, il me semble, c'est assez flou, mais à ne pas demander trop d'aide de l'État.
Je sens bien que tu trouves que c'est pas clean.
Bah non, je sais. En fait, je sais pas. Je manque de rien, en fait, matériellement, parce que j'ai la chance d'avoir une famille qui est derrière moi et les sœurs ont accepté ce que j'ai demandé. Donc, en vivant pauvrement et simplement, là, j'ai de quoi vivre et de me retourner. Et j'ai suffisamment d'expérience. Je suis architecte de formation, un diplôme réel, une licence d'histoire de l'art, un master en théologie morale, énormément d'expérience dans la vie religieuse, mais quand même de management, quoi. Et de je parle anglais couramment.
Tu ne devrais pas faire serveuse éventuellement ou
si vraiment je trouve rien et que je m'ennuie comme un rat mort dans un mois, voilà, je pense que j'aurais besoin d'une activité pour pas tourner en rond et devenir chèvre. Mais là, j'espère pouvoir avoir un stage bientôt dans le milieu de l'architecture.
Est-ce que tu penses que ça va t'apprendre des choses justement sur le rapport à l'argent et au bien-être ou au mal-être financier, cette expérience de...
Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est tous les jours, là. Quand je vais faire mes courses, là, pour acheter, du jambon, du machin, du truc, je suis
remise au
quotidien devant le supermarché, quoi. Donc maman m'a donné ses cartes de réduction Monoprix, elle m'a dit où est-ce qu'il fallait acheter les légumes les moins chers sur le marché, parce qu'en plus dans le quartier ici là, dans le 15e, c'est quand même assez cher quoi. Faut quand même être un peu rusé, parce que si on fait pas attention, ça passe du simple au double en fait, selon ce qu'on achète.
Et tu vas te payer un appart à toi?
Alors quand j'attends d'avoir un travail, en fait ça dépendra du travail.
Tu t'imagines avoir une vie classique de personnes qui bossent et
qui... En fait j'ai besoin de retrouver cette vie là, pour pouvoir ensuite décider si... Je reviens dans ma communauté ou si je quitte la vie religieuse. Donc j'ai 2 ans et demi pour ça. Mais pour l'instant, mon premier objectif, c'est justement de retrouver cette autonomie personnelle, de gagner des sous et d'être responsable de les dépenser ou de les gagner.
Pourquoi c'est si important?
Parce que j'avais eu l'impression d'avoir été infantilisée sur pas mal de domaines. Je pense que je peux tout à fait subvenir à mes propres besoins, que je suis suffisamment droite dans mes bottes.
Pour toi, travailler, gagner de l'argent, c'est être libre?
En fait, ouais. Parce que tu fais ce que tu veux de ton argent. Alors que dans la vie religieuse, tu fais rien du tout de ce que tu veux, de peu d'argent que t'as. T'es obligé de rendre compte sur tes moindres centimes dépensés.
Bah, l'idée, c'est que t'as donné ta vie entière
oui.
à Dieu.
Oui, mais il y a un moment donné où ça peut être un carcan, en tout cas la manière dont moi je l'ai ressenti. Hein. Pour moi, là, je commence à ressentir un poids du fait d'avoir à rendre compte de tout, même si c'est légitime et normal. Il y avait aussi une manière de savoir que peut-être on allait me chipoter sur telle dépense. Vous ne pouvez pas aller au cinéma ou... Enfin, si vous avez besoin de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, il faut pouvoir le justifier.
Et éventuellement, on peut te dire non.
Oui. Ou on peut me reprocher d'avoir fait cette dépense. On m'a déjà fait comprendre que je dépensais trop d'argent pour mes repas à l'université, alors que parce que j'avais au moins 4 repas par semaine à l'université. Mais en gros, ça faisait que 60 euros par mois. Et ben, vu l'échelle de dépenses communautaire, c'était beaucoup trop par rapport aux autres, puisque les autres n'avaient aucune de ces dépenses-là. Donc bon, en soi, c'est rien en fait. 60 euros de bouffe par mois pour un mois, c'est pas non plus la mer à boire quand tu manges au moins 4 fois par semaine hors de ta communauté. Mais pour les sœurs, c'était trop. Enfin voilà, donc il y a comme un... Alors c'est normal, hein, mais c'est peut-être aussi parce que ça résonne avec plein d'autres de mes questions et d'un moment dans ma vie où j'ai besoin de pouvoir aussi refaire des choix. Je me suis peut-être sentie un petit peu enfermée.
Est-ce que tu kiffes aujourd'hui, là, c'est très nouveau, quand tu dépenses des sous, quand tu t'achètes des trucs?
En tout cas, une certaine excitation, parce que je me souviens, quand j'ai eu ma carte bancaire, là, j'étais là, yes! C'était vraiment, soudain, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un sésame. Alors, en même temps, c'est des sous qui...
Oui, c'est des sous qui viennent, en plus, des
voilà.
religieuses.
Voilà, c'est ça. Donc, faut quand même que je fasse attention à ce que je dépense. Donc là, je sais que la fin du mois arrive et que j'ai, voilà, il va falloir quand même que je vérifie que tout ce que j'ai dépensé rentre quand même dans mon budget. Même si j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que ce que j'avais prévu pour un mois, parce que là, il fallait que je me rhabille. Donc, j'ai quand même fait un peu plus de défense de fringues que je ferai les mois prochains. Donc, tout ça, ça va, je pense, se rééquilibrer. Mais il va falloir que j'ai en tête un peu par semaine combien je peux dépenser, que je me fasse mon petit budget perso pour vérifier que je suis dans les clous. Donc, mais en même temps, ça m'amuse. Non, c'est un peu excitant. Là, même, je me suis acheté des petites ballerines chez un chinois à 12 euros. Je trouve ça. Je n'avais pas de chaussures de fille, quoi. Donc voilà, je me suis racheté des collants. C'était mes premiers pantalons en 24 ans. Et là, c'est mes premières jupes en 24 ans. Enfin, j'avais pas remis des chaussures de fille avec collants depuis 24 ans, là. Donc c'est quand même des expériences un peu bizarres.
Est-ce que gagner de l'argent, éventuellement pouvoir retrouver une vie normale à cet égard, avec ce luxe, ces plaisirs, ces craquages, et parfois ces petits moments radins aussi qu'on a tous, est-ce que tu crois que ça pourrait cogner avec ta spiritualité, ton engagement, ta foi?
Non, franchement, je pense que ça fait partie en tout cas pour moi aujourd'hui, de mon désir de me retrouver en écho avec le monde réel, de mieux comprendre aussi certaines problématiques du monde d'aujourd'hui, quoi, dont j'étais coupée, protégée.
Tu penses que c'est pas contradictoire avec ton engagement
non.
religieux?
Non, non, non.
L'argent et la religion catholique, c'est pas les meilleurs amis du monde. Hein. On a ce démon, Mammon,
ouais.
qui est le démon précis de l'argent. On a cette formule, il est plus facile pour un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis. On a le mythe du veau d'or, les marchands du temple qui sont chassés par Jésus. Enfin, l'argent, les riches, les marchands, c'est pas les amis de Dieu, hein, manifestement.
Oui, tout à fait. Mais après, je pense que la question, c'est toujours l'usage. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et en France... Je pense qu'il y a encore une réserve, enfin c'est normal d'ailleurs, enfin, il y a une certaine discrétion, il me semble peut-être de bon aloi vis-à-vis de l'argent, mais je pense qu'on a de fait peut-être besoin de pouvoir avoir un rapport plus décomplexé et plus généreux.
Tu ne le vois pas comme un concurrent de Dieu, ce qui a été éventuellement le cas, tu vois, il y a cette idée que s'il y a un démon spécifique pour l'argent, c'est peut-être parce que voilà, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, et que... sans la vie spirituelle, l'argent peut être considéré comme étant exactement la même chose.
Oui,
il est partout,
oui,
il circule partout, il donne énormément de pouvoir, il connaît toutes les histoires.
Oui, puis
on peut
je pense que c'est une des grandes tentations. Mais qu'il y a une manière, toujours dans la manière de gérer. comment est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on gère en bon père de famille? Est-ce qu'on gère en générosité? Est-ce qu'on on peut pas faire sans, en fait? Et c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est que dans la vie religieuse, on fait vœu de pauvreté en ayant l'impression globalement qu'on se détache de l'argent, mais finalement on est encore, on est aussi obsédé par l'argent
parce qu'on y pense tout le temps.
On y pense tout le temps parce qu'on fait hyper attention à pas dépenser, à faire attention à tout ce qu'on a dépensé, et on devient radin. Enfin, on peut devenir très très facilement radin. Et en fait, c'est omniprésent quand même.
Toi, tu t'as vu des petits trucs où tu t'es dit, non, là, on,
ah non, mais complètement, mais
là, on est radin, quoi.
Ah non, mais complètement.
Ah ouais.
Et puis, en plus, radin, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas confiance non plus dans la providence. Parce que je crois en la multiplication de la générosité. Enfin, quand tu donnes, d'autres donnent, et en fait, le Seigneur te rend au centuple. Enfin, je l'ai vécu 15 000 fois. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment une manière de vivre avec l'argent qui devrait être plus, ouais, décomplexée, plus simple, sans tabou, et qu'on se raconte pas des histoires en disant moi je vis dans la pauvreté et l'argent ne m'intéresse pas, parce qu'en fait c'est pas vrai. Enfin, on est tous
il y a toujours un moment où c'est raconté.
Oui.
Ouais.
Ou d'une manière ou d'une autre
ou avoir peur.
Oui. Il est là de toute manière. Ouais. Donc c'est quel est mon quel est mon rapport à l'argent, comment est-ce que j'en suis consciente, libre, honnête avec lui, enfin est-ce que je joue avec d'une manière ou d'une autre, comment j'en parle, comment je l'utilise. Et en fait, même dans la vie religieuse, on a tous un rapport particulier à l'argent, et donc faut pas qu'on se raconte des histoires.
Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production en est assurée par Jean-Paul David, sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent, ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.